A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, Super Laser Punchy, Super Laser Punch. Je suis Patrick Béja et nous allons parler de l'épisode numéro 9 de WandaVision, un tout petit peu en retard. Mais heureusement, nous avons assemblé l'équipe de choc de Super Laser Punch puisque Johan est revenu. Est-ce que tu as eu des super pouvoirs finalement ?
Alors, mon super pouvoir, après tout ça, c'est d'être immunisé au Covid pendant 2 mois.
Ça dure que 2 mois, non ? C'est un petit peu plus
long
quand même.
C'est que 2 mois, ouais. Ah ouais, c'est environ 2 mois.
Et après, c'est vrai, je peux j'avais pas vu.
Ouais.
C'est 2 mois, bah écoute, bon, et ça, et puis une appréciation plus profonde pour la beauté de ce qui t'entoure, le
Exactement.
Goût, le fait de pouvoir respirer, voilà. Tu vois, c'est...
Ouais, tout ça.
Bon, écoute, je suis content que ça se soit bien résolu au final, cette histoire. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur ces derniers jours, mais je n'aurais pas voulu faire cet épisode de finale de WandaVision sans toi.
Et je suis content que tu m'aies attendu.
Mais écoute, il fallait au moins. Je suis sûr que tous les auditeurs sont super contents d'avoir notre compte-rendu tous les deux ensemble, même si c'est un petit peu en retard. Et puis, on en reparlera à la fin de l'épisode. Mais ça veut dire que, préparez-vous, messieurs, dames, soyez prêts. Parce que du coup, on a fait notre épisode de pause, entre guillemets, la semaine dernière. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on aura tout de suite le récap, le débrief de Falcon et Winter Soldier, messieurs, dames. Peut-être qu'on pourra dire un petit peu ce qu'on en attend d'ailleurs de cette nouvelle série à la fin de l'épisode. Ouais. Mais pour le moment, on parle de WandaVision avec un récap de l'épisode 9, dernier épisode de la série. Alors, est-ce que ça serait juste, tu crois, de dire qu'il a été un petit peu décevant pour l'internet, cet épisode 9 ?
Pour moi, il était un peu décevant. Je dois bien le dire. Et oui, il était décevant à plusieurs titres. Il n'était pas que décevant. Il y avait des super choses aussi. Mais il y avait évidemment plein de choses qui tournaient autour des spéculations, que ce soit autour du Quicksilver des X-Men, ouais, ou de Mephisto, ou ce genre de choses-là. Effectivement, je pense que c'était des attentats un peu irréalistes, que ce soit complètement résolu, etc.
Mais c'est ce qui a fait toute la hype autour de la série quand même pendant toutes ces semaines.
Ouais.
C'est vrai que il y avait, alors je pense qu'on peut diviser l'épisode en deux parties et puis une sorte d'overall, une troisième partie de tout ce qui était pas là. Et la première partie, c'était un petit peu la résolution du genre ce qu'on attendait, c'est-à-dire gros combat de super-héros, enfin ou juste combat de super-héros. Et puis la deuxième partie, c'était la résolution un petit peu émotionnelle de la série. Et puis la troisième partie par laquelle on peut peut-être commencer, c'est effectivement tout ce qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire des réponses à toutes nos spéculations. On va schématiser, il y en avait trois. Il y avait d'une part toutes les spéculations autour de Quicksilver du MCU / du XCU. La deuxième chose, c'était, j'en perds déjà mon... Ah oui, Mephisto, et ces choses-là. Et puis la troisième chose, c'est la présence d'un acteur incroyable qui avait été teasé par Paul Bettany, l'acteur de
Paul
Vision.
Bettany, ouais.
Et qui, au final, bon, s'est révélé être un pétard mouillé. Mais on peut parler de chacun très rapidement, hein, de chacun de ces éléments.
Ouais, ouais.
Premier, Quicksilver, du coup, pour le coup, vraiment, vraiment pétard mouillé, quoi. Mais encore plus que je l'imaginais.
Ouais. Ouais, alors, du coup, tu sais, c'était... J'étais un peu gêné, moi, de parler d'Evan Peters pendant les récaps, parce que je pense que tu avais deviné que j'étais vraiment très ambivalent sur cette histoire-là. Et du coup, j'étais pas ravi qu'il apparaisse. Mais maintenant qu'il était apparu, il fallait que ça fasse quelque chose, quoi. Mm-hmm. Et en même temps, j'avais vraiment pas envie de relier le MCU aux autres aux univers de la Fox,
etc. XCU, tu peux le dire. XCU.
Du coup, voilà. Du coup, en bilan de ça, bah du coup, c'est vraiment personne.
C'est même ouais non mais c'est terrible parce que moi j'ai dit à plusieurs reprises quand on en discutait parce qu'il y avait plusieurs personnes qui disaient non mais c'est juste un clin d'œil, ça n'a rien à voir, etc. Moi je disais mais non mais c'est pas possible, même si ils disent que en fait non c'est pas lui, il y aura forcément un truc genre tu vois, tu pourras avoir la spéculation même s'ils en parlent pas que c'est un écho, une image de quelqu'un qui tu vois que quelqu'un a eu d'un autre univers, et en fait mais ils ont réussi à tuer tout ça dans l'œuf en expliquant exactement de qui il s'agit, c'est-à-dire bah c'est juste un couillon dont le nom est Bonheur, qui fait juste une dick joke quoi au bout du compte, et donc ils identifient tellement le personnage que c'est difficile de dire qu'il y a autre chose derrière. Alors on peut toujours imaginer que dans ouais. 2 ans il y aura une sorte de retcon ou d'explication, mais je pense que ça tombera un petit peu à plat.
Moi j'y crois pas trop. Ouais. Moi, je pense qu'on en a fini avec Evan Peters hein, dans l'MCU. Mmh. En fait, le truc, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu de vue, c'est que ces épisodes du MCU doivent aussi être autonomes, enfin, vraiment autonomes, c'est-à-dire qu'on peut voir d'autres films sans voir tel ou tel autre film. Et du coup,
telle ou telle autre série, ouais, en plus.
Ouais, voilà. Et du coup, maintenant qu'il n'y a pas de gros reveal autour de ça, plus on s'approchait de la fin, finalement, de la série, plus c'était évident, plus ça me paraissait difficile de faire de cet événement quelque chose d'important, en fait. C'est-à-dire ouais. que, bah, il fallait avoir du temps pour le traiter, donc il y en avait de moins en moins au fil de l'avancée. Et du coup, bah, on se retrouve effectivement, bah, on a clôturé cette histoire-là. Je vois pas dans quelle autre série, dans quel autre film on pourrait faire réapparaître ce personnage-là qui est finalement qu'un acteur, c'est ce que j'ai compris, hein, un acteur qui vit à Westview.
Oui, c'était le fameux mari d'Agnès, Ralph, et c'était juste la personne dont elle avait investi la maison, en fait, au final. Et certains disent, voilà. Est-ce que c'est la personne dans le programme de protection des témoins que cherchait Jimmy Woo? En fait, a priori, non. Enfin, peut-être, mais c'est très peu probable. On n'a pas de raison de le penser. Et puis, tu vois, des photos d'acteurs, tout ça, c'est pas forcément idéal. Mais ouais, c'est un petit peu décevant, c'est sûr. Moi, je pense quand même, il faut pas oublier que, normalement, la série WandaVision devait passer après, je crois même que c'était la deuxième ou troisième série qui devait arriver, et elle devait ouais. arriver surtout avant, juste avant Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui devait sortir au cinéma, genre la semaine d'après la fin de la série. Et bon, ceci dit, je pense pas qu'ils vont tout à coup expliquer les X-Men dans Doctor non. Strange, mais peut-être, à un moment, il faut qu'ils... bah, peut-être qu'ils vont vouloir raccrocher les wagons, parce qu'il y a quand même des histoires de multivers dans Spider-Man, il y a Deadpool, dont on sait que ça va être le même Deadpool qui va être produit par Marvel, il y a des histoires de multivers qui vont devoir se raccrocher à un moment. Donc, peut-être que, quand toute la messe sera dite dans 2 ans, on se dira, ah ouais, ok, donc c'est pour ça que le Quicksilver ressemblait à ça, parce que tel personnage, il a, tu vois, il y aura un truc qui raccrochera ouais. un tout petit peu. Ça, moi, ça ne dérangerait pas, ils l'ont très bien fait, dans Infinity War et surtout Endgame, ils ont raccroché quelques wagons, ils ont légitimisé certains trucs de manière satisfaisante, j'ai trouvé. Donc peut-être. Moi, je garde un maigre espoir, mais c'est sûr que là, c'était clairement, ils ont tué le truc.
Juste pour conclure là-dessus, je tenais à le dire que moi, j'ai pas du tout aimé cette manœuvre-là de Marvel. Ouais. Ils l'ont fait sciemment, ils ont pris ce personnage-là exprès en sachant que ça allait faire du buzz, que ça allait faire énormément parler autour de la série, au moins dans les cercles de fans des films et puis des comics. Donc pour moi, c'était vraiment fait à dessein pour créer, créer du buzz.
C'est un peu malhonnête, ouais.
C'est un peu le clickbait parce qu'en fait, c'était aussi présenté sous la forme d'un gros cliffhanger de fin d'épisode. Mmh. Donc il y avait vraiment toute une emphase faite là-dessus. Et pour moi, c'était vraiment pas au hasard. C'était vraiment, pour cette raison-là. Et à la limite, je leur en aurais pas voulu beaucoup si derrière il y avait eu un autre truc complètement différent mais assez gros pour justifier cette emphase et tout ce temps passé sur à mettre en avant ça. Mais bon, je suis pas trop fâché. J'ai beaucoup aimé le personnage en soi. Il m'a beaucoup fait marrer, même à la fin. Cette nonchalance quand il redit son nom en mode bonheur, ça m'a fait rire, Voilà. Après, je trouve ça dommage. Il y a un autre aspect aussi. J'ai cru comprendre que l'épisode n'est pas tel exactement celui qu'ils avaient imaginé à la base, et il aurait dû avoir une petite séquence en plus avec Monica et le lapin d'Agatha qui n'est pas malheureusement dans l'épisode.
Le lapin était censé être effectivement une sorte de démon, un familier de sorcières qui était une sorte de démon. Et il y avait une séquence, effectivement, parce que c'est sûr que Monica, on ne la voit pas beaucoup non plus. Je dirais que, pour conclure effectivement sur Ralph Bonheur, c'était, je trouve, je suis d'accord avec toi, c'est intellectuellement malhonnête de la part de Kevin Feige, mais je le prends en homme personnellement responsable de cette malhonnêteté, mais... J'espère que, de la même manière, tu te souviens quand tu m'as fait remarquer à l'épisode d'avant que, en fait, Wanda qui portait son costume de Scarlet Witch parce qu'elle l'avait vu dans la Mind Stone, quand elle a acquis ses pouvoirs, c'est pour ça qu'il y avait une sorte d'écho, un truc dont elle s'est souvenue. J'espère que ça donnera un truc du genre, vaguement, pour lui, mais oui, on est d'accord. L'autre truc, c'est, beaucoup plus rapidement, Mephisto. On n'a pas vu de Mephisto, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Mephisto, mais c'est vraiment tous les fans qui se sont montés le bourrichon, et on en reparlera dans une seconde avec l'histoire de Paul Bettany, mais ouais, là aussi, pas de Mephisto.
Ouais, pour le coup, moi, ça m'étonne pas du tout. Enfin, ça m'étonnait pas du tout. Je m'attendais pas à voir débarquer Mephisto dans la série.
Non, mais au moins évoqué, tu vois.
Voilà, pour moi, c'était vraiment des références. Et pour le maximum du maximum, pour moi, ça aurait été une séquence post-générique. Tu vois, en mode, comme on avait eu Thanos au bout de je sais plus combien d'années.
D'une certaine manière, on va parler de la séquence post-générique, mais d'une certaine manière, les enfants de Wanda qui l'appellent, ça peut ouvrir la porte à Thanos. Ça peut ouvrir la porte à Mephisto.
Ou à d'autres, en fait.
Ou à d'autres, oui. Mais ça pourrait. je suis d'accord. Et disons qu'on va pas passer 2 heures sur Mephisto parce que c'est inclus en fait dans les réflexions sur le gros teaser qu'avait fait Paul Bettany. Je crois que sur cette série, il y a un autre truc que je voulais dire avec Quicksilver, c'est que malgré tout, même si c'était intellectuellement malhonnête et je suis complètement d'accord, on a quand même eu ce moment totalement fou qu'ils nous ont offert à la fin de l'épisode où c'est lui qui est là. Et pour moi, le fait que ça soit pas vraiment lui ne teinte pas tout le plaisir et la hype de fou qui est forcément un peu artificielle, dans laquelle on s'entraîne un peu soi-même, qui avait eu au moment de cet épisode, tu vois. C'était tellement le moment où je l'ai vu et où j'ai fait « Mais what the fuck ?» et où je savais que tous les fans de Marvel dans le monde entier avaient eu le même « what the fuck » au même moment. Ça reste un truc dont je me souviendrai, tu vois. Même si c'était un peu... Je trouve que ce moment reste...
Après, il ne faudra pas qu'ils abusent de ce genre de blague. Parce que, bon, c'est un peu frustrant aussi de faire toutes les connexions, de dire « Ah mais oui, mais d'accord, ok, mais alors si c'est comme ça. » Et si finalement, eux, de leur côté, ne font pas ce travail-là...
Ouais, si au final, il n'y a rien...
C'est juste une blague pouette-pouette, bon, tant pis.
Bon, il y avait quand même beaucoup de choses à relier, hein, même si on s'est un petit peu tous emballés, on a relié trop de choses, il y avait quand même beaucoup de choses à relier. Mais avant d'y venir, justement, cette histoire de Paul Bettany, je crois que ça encapsule bien toute cette partie. C'est qu'ils ont aussi, c'est la première fois qu'ils font une série, et c'était une série avec beaucoup de pièces de puzzle, et je crois qu'ils vont comprendre, qu'ils ont compris que les fans ont tendance à beaucoup s'emballer et qu'il faut toujours manager les attentes, les expectations des fans. Et que là, qu'il faut faire un plus gros travail de managing, parce que l'histoire de Paul Bettany, c'est Paul Bettany qui avait dit dans une interview, Paul Bettany, l'acteur de Vision, donc, qui avait dit dans une interview, ah ouais, avant la fin de la série, il y aura une caméo d'un acteur incroyable avec qui j'ai rêvé de travailler pendant 30 ans, et ça va être un totalement fou. Et évidemment, l'internet et les fans se sont emballés, se sont dit, ah mais qui ça peut être, Ian McKellen, Patrick Stewart, qui ça peut être.
Et j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient du coup, le retracé de la carrière de Paul Bettany pour savoir avec qui il avait déjà travaillé, avec qui il n'avait pas déjà travaillé, voir à qui pourrait être fan potentiellement et puis faire des... Ouais. Ah, c'était super drôle.
Mais c'est marrant parce que du point de vue de Paul Bettany, c'est lui, il sait et il n'y a pas pensé plus que ça. Et c'est une blague marrante, tu vois. C'est genre, il dit ouais, « Ah ouais, c'est un acteur, machin ». Et de son point de vue, on comprend complètement comment il pourrait dire ça. Il dit « Ah, tu vas voir ». Et quand ils vont savoir qui c'est, ça va être rigolo. Tout le monde va bien se marrer, tu vois. Mais si tu ne prends pas en compte, et lui... Et je crois que d'une certaine manière, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de spéculation sur WandaVision dans la sphère du net. On aurait peut-être dû, mais je crois qu'à ce point-là, c'était un petit peu extrême. Et donc, il faut effectivement faire attention à tout ça. Et je crois que pour toutes ces histoires... Alors, tu peux pas, de toute façon, complètement arrêter les spéculations parce que, d'une part, c'est ce qui fait vivre une bonne partie des YouTubers de la sphère Marvelophile. Et en plus, ça fait partie du fun aussi de spéculation. On le fait pas parce qu'on nous force, tu vois. On le fait parce que c'est marrant et que ça nous maintient dans cette hype de fanitude qui est rigolote. Mais oui, je crois que Marvel a appris aussi avec WandaVision qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Je crois que les acteurs vont avoir des briefs à partir de maintenant pour bien être sûr qu'ils ne fassent pas ce genre de blagoune un petit peu innocente, mais qui peut déraper, comme l'a fait Paul Bettany, par exemple.
Je ne sais pas si on en avait parlé avant ça, de cette déclaration de Paul Bettany.
On l'avait évoqué, mais moi, je crois, une ou deux fois. Ouais.
J'avais trouvé ça très drôle, en fait, parce que du coup, on avait commencé à sentir venir le truc à l'épisode d'avant, du coup, au reveal du deuxième Vision. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit vraiment, si c'est ça, c'est génial. Parce que, enfin, moi, j'avais pas spécialement d'attente, en fait, particulière, hein, vis-à-vis de... Je sais pas de qui pouvait faire référence et tout, j'avais pas trop d'idées. Et du coup... Le fait que ce soit lui-même, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle pour le coup.
Ouais. Il l'a confirmé juste avant la diffusion du dernier épisode. mais en fait, c'est une conjonction de plein de trucs parce que dit comme ça, en isolation, tu dis « Ah, bah, il y a peut-être un acteur, machin. » Mais avec Evan Peters qui arrive, tu dis « Mais attends, mais il y a Ian McKellen. »
Ça va être Magneto, ça va être...
C'est ça, oui, c'est exactement. Et tu dis « Ah, mais putain, si ça se trouve, c'est lui. » Et bon, voilà. C'est pour ça que ça a un petit peu dérapé. Mais bon, je pense que je vais le répéter à plusieurs reprises dans l'épisode, mais tout ça n'a pas, comment dire, c'était un petit peu dommage, un petit peu frustrant, mais ça ne fait pas non plus que je suis... C'est pas au niveau où, je sais pas, je vais donner un nom de film au hasard, c'est pas au niveau de Solo où je me dis, mais putain, ça c'est... À ce point-là, c'est honteux. Enfin, pas c'est honteux, mais c'est vraiment... Ça endommage l'amour que j'ai pour une IP, pour une série. Solo, je trouve, a fait du mal à la... au personnage. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas à ce point-là. La série WandaVision reste de très bonne qualité. La première partie de l'épisode, c'était donc la partie combat de super-héros. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Alors, du coup... Bah,
c'est large. Hein,
j'avais demandé. Je l'avais appelé. J'avais demandé de la bagarre. J'ai eu de la bagarre.
Ouais.
J'adore voir... Wanda lançait des voitures sur des gens, donc j'étais servi.
Comme dans Civil War, elle l'a fait dans Civil War, elle ouais. l'a refait là. Ouais.
Ouais, ouais, donc moi, ça j'ai vraiment bien aimé tout ce truc-là. Moi,
un petit fantasme étrange. Quoi, ton truc, c'est voir Wanda Maximoff lancer des voitures sur des gens. Ok, très bien.
Il y a un reproche qui m'a un peu sauté au visage et qui est lié au fait que j'aime pas trop l'histoire de Vision Blanc. C'est qu'on tombe dans la maladie de films de super-héros qui consiste à se faire combattre, faire des combats miroirs. C'est-à-dire, on fait combattre un méchant qui ressemble au héros. Tu sais, donc on a une sorcière contre une sorcière. On a un Vision contre un Vision. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est... Ça me fait toujours un peu rouler des yeux parce que c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement chez Marvel, enfin, dans les films de super-héros en général. Mais tu sais, on a eu dans le premier Iron Man, c'était Iron Man contre un autre Iron Man. Le Hulk, c'était un Hulk contre Abomination, qui est aussi un Hulk. Ant-Man, c'est Ant-Man contre celui qui a la même combinaison. Enfin, tout ça, c'est vraiment pour moi. Et ça m'a fait un peu grincer des dents parce que quand j'imaginais le combat final, on avait tellement de potentiel et de rencontres. De jouets différents. On avait Monica, on avait Scarlet Witch, Agatha. J'aurais aimé voir plus d'interactions, de combats entre ces différents type de personnage, plutôt que de renvoyer dos à dos chaque archétype l'un avec l'autre.
Ouais.
J'ai trouvé ça vraiment dommage. Après, passé ça, j'ai trouvé les deux combats principaux, donc Vision et les deux sorcières. Les deux côtés, j'ai trouvé ça très très cool. Il y a donc côté Vision, il y a eu donc déjà il y a un combat quand même qui est assez musclé, qui se termine en discussion métaphysique autour du coup du bateau de Thésée, c'est ça ?
Exactement.
Que j'ai trouvé très chouette, bien amené et très cohérent avec du coup avec ce qu'ils essayent de faire dire de qui est ce personnage de Vision.
Ouais. Moi, je trouve ça. Je veux m'arrêter une seconde sur ça parce que j'ai trouvé que c'était une idée assez brillante, vraiment, parce qu'ils se battent physiquement pendant sur l'épisode fait pas une heure et demie, hein, mais ils font une bonne partie. On sent bien un combat physique et on voit que ça mène à rien. Et en plus, physiquement, le combat est sympa et ils utilisent bien leur pouvoir. C'est un peu intriguant que Vision Blanc sans la Mind Stone réussisse à lancer des lasers par son petit truc à circuit là, mais bon, ok, pourquoi pas. Mais on sent bien ils phasent l'un à travers l'autre, etc. Ils n'arrivent pas à gagner la supériorité ni l'un ni l'autre. Et effectivement, le combat, en fait, c'est une discussion philosophique, métaphysique sur... on en parle à propos du bateau de Thésée, mais on a cette idée dans plein de domaines, y compris en biologie. Si tu penses à qui tu es, toi, tes cellules sont entièrement renouvelées tous les X mois, X années. Et donc, tu qu'est-ce qui fait ton toi, ton ego, ta personne? De même que pour le physique, émotionnellement, mentalement, tes expériences font que tu n'es plus la même personne au bout de quelques années. Donc, si physiquement, si mentalement, tu n'es plus la même personne, est-ce que tu es encore la même personne? C'est un combat de super-héros, c'est vraiment la résolution du combat de super-héros entre ces deux super-héros. C'est une discussion. Et j'ai trouvé ça effectivement absolument brillant qu'il conclue comme ça. Donc, ça a un petit peu, pour moi, sauvé cet aspect qui est effectivement parfois un petit peu convenu du combat miroir. Ça a amené quelque part, quoi.
Et du coup, alors, j'en profite qu'on en est à ce niveau du combat pour en parler. Mais du coup, donc, ça se termine sur le Vision, donc le gentil, on va dire gentil Vision. Facile. débloque les souvenirs de Vision, du coup, au White Vision. Donc maintenant, on a un White Vision qui a à la fois le corps physique original ainsi que l'ensemble des souvenirs de Vision. Donc, il devient, on va dire vraisemblablement, il devient un Vision légitime. Hein. Et par contre, il se casse. Ça, moi, j'ai pas compris. Moi, je m'attendais à, ça y est, il va être gentil. Ils vont aller à deux Visions contre Agatha. Ils vont sauver. ils vont sauver. Voilà. Non, il s'en va. Ok. Bon, ouais.
Moi, je me barre.
J'ai pas compris. En fait, puis on le revoit plus du tout. Hein.
On va certainement le revoir, évidemment, mais.
Ouais.
C'est marrant parce qu'effectivement on pourrait se dire mais attends, il y a sa femme, enfin sa femme, son amour qui est là en train de se battre, mais c'est encore une question philosophique peut-être, mais il a tous les souvenirs mais pas l'émotion de Vision, tu vois, il a les souvenirs, il s'en souvient comme il a regardé un film ou comme c'est pas des trucs qu'il a vécu. En tout cas, c'est de cette manière qu'on explique dans Vision Quest l'état mental de Vision. Bon, il y a une autre histoire avec Wonder Man dont il n'a pas le schéma mental. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est un petit peu ça, je pense. Moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi il se barre? Mais je pense qu'on peut se dire, il est une reconstruction de Vision et il n'est pas, il n'a pas le même parcours émotionnel que Vision. Donc, peut-être que c'est pas tout à fait... Peut-être qu'il lui faut, tu vois, le schéma mental qu'ils ont pris dans Infinity War au Wakanda et que Shuri va réinjecter ça dans sa tête. Peut-être qu'il sera dans... Black Panther 2 ou un truc comme ça, je sais pas, bref.
En tout cas, j'espère qu'il va reprendre des couleurs parce que j'aime vraiment pas du tout son aspect tout blanc.
Ouais, de marbre.
Ouais.
Bon, je pense que ça reviendra à un moment, mais on verra. Et le combat, l'autre combat, c'était donc les deux sorcières. Ça t'a... Ouais. T'en as pensé quoi?
Ouais, alors du coup... je disais... Wanda qui envoie des voitures, je suis toujours là.
Elle en envoie une, hein, c'est au début.
Ouais, bah, elle en envoie une, alors j'ai regardé plein de fois cette séquence. Donc c'est plusieurs fois pour moi dans ma tête. Non, mais voilà, c'est un... des sorcières, on pourrait imaginer un peu des sorts un peu plus fantaisistes que juste envoyer des boules de feu
ouais.
ou des boules de magie. Mais je trouve que le combat fonctionne super bien avec l'absorption au fil de l'eau des, du coup, de la vitalité de Wanda. Il y a aussi un combat, c'est pas qu'un combat physique, puisqu'il y a tout aussi un enjeu psychologique avec, du coup, bah vas-y, libère-les. Elle commence à libérer, du coup, la ville, mais elle se rend compte qu'en libérant la ville, il y a Vision et ses enfants qui commencent à se désintégrer. Du coup, elle remet. Tu vois, il y a un vrai combat intérieur de la côté Wanda là, et que je trouve vraiment, vraiment cool.
Et même ce moment choix, où elle libère la ville, le moment est saisissant. Quand il y a justement, comment elle s'appelle, Doty, qui n'était pas quelqu'un de spécial, Doty qui arrive et qui dit « Wanda, j'ai une fille, elle s'appelle Sarah, est-ce que tu peux juste la laisser sortir de sa chambre ?»
et c'est... qu'à dire qu'elle sera copain avec tes enfants, ouais. Elle peut être même un bully si tu veux, mais laisse-moi la serrer dans mes bras.
C'est traumatisant.
C'est affreux, hein.
C'est vraiment... Et Wanda qui se rend compte que... Parce qu'elle en parlait au début de la... Enfin, à un moment dans la série, quand elle s'engueule avec Vision, elle dit « Mais tu crois que c'est moi qui contrôle tout ?» Et donc, ça nous a enduit d'erreur, tu vois. Et en fait, oui, c'était bien elle, et elle n'arrive pas à le croire. Elle se dit « Mais non, mais vous allez bien !» Et elle dit « Mais quand on dort, on vit tes cauchemars, Wanda, et c'est de la torture !» De la torture, c'est ignoble. Et d'ailleurs, à la fin, je ne sais pas si on peut parler de ça maintenant, mais à la fin, c'est un peu... Bon, enfin, qui va l'arrêter en même temps, tu vois ? C'est pas qu'ils vont aller la voir et lui dire « Wanda, vous êtes rendue coupable de crimes multiples. » Bon, si elle ne veut pas aller en prison, je pense que personne ne va vraiment pouvoir lui mettre les menottes. Mais c'est ignoble ce qu'elle a fait. Et elle, bon, elle ressent une certaine quantité de culpabilité, ça a l'air assez clair. Mais qu'est-ce qu'elle va faire après ? Elle va pas s'immoler par le feu pour en pénitence, tu vois. Mais cette scène est assez saisissante. Là encore, je suis assez d'accord.
Voilà. Puis après le combat, bah il y a cette fameuse astuce qu'elle va réutiliser de dessiner des runes. Ouais. En gigantesque pour justement empêcher les pouvoirs d'Agatha. Ça, c'est un peu convenu, entre guillemets. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à retrouver une autre œuvre, mais c'est vraiment quelque chose qui ça me dit quelque chose, quoi. Le fait qu'elle, tu sais, qu'elle envoie des pouvoirs et que ça rate. Et le méchant est là, ah, 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 tu m'as raté. Ah, mais c'est pas toi que je visais. Et puis, en fait, derrière, voilà, tu vois.
Je trouve que
ça marche quand même super bien.
Bah, ça marche bien parce qu'ils réussissent à nous mettre suffisamment le doute sur son état émotionnel à elle qu'on comprend plus ce qu'elle fait. On est comme Agatha. On est comme Agatha. On ne comprend pas ce qui se passe en fait. Et évidemment qu'on a tous pensé ah mais je savais que elle allait utiliser les runes parce que c'est gros comme une maison. Elle le dit au début de l'épisode précédent, Agnès. C'était évident, mais il n'empêche que on n'a pas vu comment c'était amené. Et du coup, quand il y a le reveal, qu'on voit les runes immenses sur le ex, c'est très satisfaisant parce que genre oh, mais oui, mais non, ça fonctionne super bien quoi.
Ça marche vraiment très très bien.
Et du coup, les deux combats entre les deux couples de super-héros, je trouve au final, et c'est pour ça que je trouve que même cette partie est quand même pas mal, c'est que les deux combats sont satisfaisants. Ce reveal fonctionne et le combat philosophique des Visions fonctionne aussi, donc c'est quand même assez positif, quoi, je trouve.
Oui, je suis assez d'accord. Au global, sur ça marche quand même très très bien. Du coup, là, pour moi, justement, ces deux combats-là, c'est la force de l'épisode, et on va arriver... Bon, on peut parler juste dire que, bah, du coup, Wanda devient complètement Scarlet Witch, à ce moment-là, à la fin de ce combat-là. Et où, du coup, là, on ressent toute la puissance de ce personnage-là. Donc là, on a ces deux combats qui, pour moi, sont vraiment la force de l'épisode. Et là où le bas blesse, et c'est là où j'ai été vraiment déçu, pour le coup, c'est tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire avec Monica, avec les enfants au sol, les militaires un peu stupides. Heyward qui va se mettre à tirer sur les enfants sans aucune raison.
Alors,
juste parce que c'est méchant, quoi, tu vois.
Autant les militaires, bah, ils sont pas stupides, ils ont fait ce qu'on leur a dit, et puis ensuite les enfants qui sont Wiccan et Speed, donc Scarlet Witch et Quicksilver en version petit, bah, ils ont pas eu le choix, tu vois. Ils sont...
Admettons que tu sois un soldat. Ouais. On te demande de tirer sur les enfants de Vanda. Est-ce que tu t'exécutes, quoi? Parce que
ils ont pas tiré.
À soi un peu.
Ils n'ont pas tiré. Ils les ont mis en joue. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que Heyward, qui est le pire des méchants grimaçants, qui tire sur des enfants. Non mais. Alors peut-être que là encore, il y aura un moment où on va nous expliquer et que Heyward dit mais attendez, c'est pas des enfants. C'est une création de la Scarlet Witch qui avait pris en otage des enfants, des milliers de personnes. C'est pas des enfants, c'est des illusions créées par Wanda Maximoff, l'une des pires criminelles super-héros qu'on ait connues. Tu vois, peut-être qu'il peut se rattraper aux branches comme ça, peut-être qu'il le... Je pourrais le voir, parce que c'est vrai qu'ils ont l'aspect d'enfants, mais c'est pas... Enfin, de son point de vue, ils sont quand même... Ils n'existaient pas il y a... je suis en train de faire l'avocat du diable. Tu sais, dans tous mes épisodes, je fais l'avocat du diable. C'est l'avocat du diable.
C'est l'avocat de Mephisto, en fait.
C'est ça, exactement. L'avocat de Mephisto, dans le cas du MCU. Mais c'est vrai, il les a vus. Il y a une semaine, ils n'existaient pas. Wanda les a créés ex nihilo. Ce qui, d'ailleurs, était... certains disent... ah oui, mais en fait... c'était Agatha All Along, en fait, non, c'était pas Agatha. Mais d'une certaine manière, si, Agatha a tout fait foirer, en fait, à l'intérieur du X. C'est elle qui a éloigné Vision, c'est elle qui a essayé de faire en sorte que Wanda ait des enfants, peut-être pour tester si elle pouvait créer quelque chose à partir de rien, qui était l'une de ses théories sur la sorcière rouge. Enfin bref, mais quoi qu'il en soit, les enfants, ils sont... On peut... penser que c'est pas du tout des enfants et que c'est un sortilège ou même des démons si on parle de sorcellerie, tu vois, donc peut-être que ça peut se justifier comme ça. Non, t'es pas convaincu?
Moi, je suis pas super convaincu. Je peux voir pourquoi est-ce qu'il est hostile vis-à-vis des enfants. Par contre, ouais, c'est la façon dont la scène aussi est filmée, quoi. C'est qu'il arrive, il tire dessus, enfin c'est un peu
On est d'accord.
Ah là, et puis derrière, il essaie de s'enfuir. Et puis, il y a enfin Darcy qui arrive avec le camion pour l'empêcher de partir. Et ce sera sa seule intervention. Et on la verra plus jamais de la série. On ne sait pas où elle est passée.
Enfin, enjoy, tu vois, prison. Pour moi, il y a...
Ouais, c'est ça. Je l'ai réécouté tout à l'heure.
Have fun
aussi.
In prison.
Ça m'a fait rire, quand même.
C'est un peu... C'est pas mal qu'il soit arrêté, tu vois, parce que ça montre que le shield, c'est pas... Pardon, lapsus. Le sword, c'est pas le shield, tu vois, qui est complètement corrompu. Là, il est arrêté, il a fait n'importe quoi. Il a essayé de camoufler ses actions illégales. Donc, bon, le sword reste, tu vois, plus ou moins debout, mais... Et puis, Monica... Si on reparle de conneries, Monica qui se précipite devant pour protéger les enfants, ok, d'accord. Et heureusement, elle avait ce pouvoir pour arrêter les balles qui tombent juste après. Et de toute façon, les enfants, Wiccan avait arrêté, avait arrêté une balle de toute façon. Il avait réussi à le faire. Bon, bref, on est d'accord.
Ouais.
C'est pas la
brillant,
partie
en fait.
La plus brillante.
C'est même pas joli comme scène, tu vois. C'est pas impressionnant. C'est pas... Voilà, je trouvais ça un peu dommage, en fait. Parce que finalement, c'est tous ces personnages-là, que ce soit Darcy, que ce soit même Ralph ou Monica, c'est des personnages qui, pour moi, sont superflus dans ce qu'essaye de raconter la série. Pour moi, la série raconte vraiment le voyage mental de Wanda. Et tout ça, donc, que ce soit les trucs qui nous permettent de faire des spéculations, l'ingénieur aérospatial machin, tout ça, pour moi c'est des distractions qui finalement nous éloignent du cœur de ce qui est bien dans la série, et c'est pour ça que je trouve ça dommage finalement qu'il y ait toutes ces pollutions là autour qui finalement je trouve ne marchent pas très bien, sont pas incroyablement fun. C'est là que vient ma déception, mais globalement je trouve que la série s'en sort quand même super bien. C'est une très bonne première série du MCU, donc je boude pas non plus mon plaisir, mais
je
voilà,
crois qu'on
je
est assez
dommage de s'être perdu un peu sur ces aspects là, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, ouais, dans l'ensemble. Faut quand même qu'on parle justement de cette dernière partie qui est tout le voyage émotionnel de Wanda, qui se conclut avec ce qu'on ne pensait pas voir arriver, c'est-à-dire, Wanda doit abandonner non seulement ses enfants, mais enfin non seulement Vision, mais aussi ses enfants, dans cette scène qui, moi, m'a vraiment touché, que j'ai trouvé, qui en fait, la première partie avec le combat, c'est un peu, bon, on le fait parce qu'il faut y avoir un combat, effectivement, il y a des moments cool, on a des idées cool, mais on l'expédie parce qu'il faut faire un combat. Et après, la vraie conclusion de la série, c'est la partie où elle réduit le ex et elle abandonne les enfants et Vision. Et moi, j'avoue que cette partie, pour le coup, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait hyper bien. Elle m'a beaucoup touché. Le moment où, moi, j'y croyais pas jusqu'au bout, je me disais, mais c'est pas possible, elle est vraiment en train de...
Ouais, tu te dis, elle va réduire juste à la maison ou un truc comme ça.
Ouais. Ou quelque chose, je sais pas, et les enfants, et cette scène hyper émouvante où ils disent au revoir aux enfants tous les deux, et ils ont compris, mais ils l'ont pas dit, donc tu te dis peut-être qu'elle va faire un truc, mais non, mais ils disent vraiment, le moment est venu, il faut abandonner cette illusion, et donc on va dire au revoir aux enfants, et donc elle abandonne, elle tue, elle désintègre ses enfants, C'est vraiment un truc qui a fonctionné, d'autant plus que tu as fait un voyage, tu as accompagné Wanda dans tout son cheminement émotionnel dans toute la série, qui est vraiment, c'est ça le cœur de la série, c'est pas le combat entre Agnes et Agatha et Wanda, ou le Sword ou machin, c'est le cheminement émotionnel de Wanda, et du coup ce dernier moment est hyper hyper émouvant quoi. Avec les enfants en particulier. D'ailleurs, elle dit, tout le monde l'a remarqué, mais elle dit « Merci de m'avoir choisi pour être votre mère », ce qui laisse penser qu'ils existaient en dehors de sa création, que c'était peut-être des âmes qui ont rejoint la réalité grâce à elle. Donc, ça ouvre la porte à ce qui se passe en post-générique, en fait. Mais
ouais, ouais, sur les enfants, on peut parler d'Vision. Pareil, moi, cette séquence, je la trouve vraiment superbe quand ils rentrent chez eux. Bah ouais, c'est ce que tu décrivais, quoi. Ils mettent les enfants au lit, ils disent au revoir. Et puis après, ils se rejoignent tous les deux, donc Wanda et Vision, pour discuter. Et Vision qui lui, est complètement autonome hein, en termes de, pareil, hein, de libre arbitre et de réflexion. Et il ne sait pas qui il est, du coup. Il ne sait pas comment est-ce qu'il existe et pourquoi. Et il pose cette question à Wanda qui fait une réponse, bah, pareil, hein, tout en émotion et qui explique que bah, du coup, il fait partie d'elle et que c'est tous ses espoirs et son amour et tout ça. Et bah, voilà, je crois que ouais, c'est toute cette séquence-là, elle est vraiment très, très bien menée. L'émotion, ça marche. Enfin, pour moi, ça a bien marché en tout cas. Et puis, bah, voilà, on dit au revoir avec elle à tout Westview et puis surtout à la petite famille. Quoi. Donc, c'est un peu, ouais. C'est un peu triste.
Et le passage, effectivement, avec Vision où elle dit, comme tu l'as dit, elle dit tu es la partie de la Mind Stone qui réside en moi, mes peurs et mes espoirs et surtout mon amour. Et puis, il dit mais j'ai été une voix sans corps, et puis je sais plus ce qu'il dit, un corps sans âme, ou je sais plus quoi exactement, mais et maintenant je suis et qui sait ce que je pourrais être plus tard, et on s'est déjà dit au revoir plusieurs fois, donc peut-être qu'on se redira peut-être qu'on se dira bonjour à nouveau. Ce moment est tellement émouvant, j'ai la voix qui tremble rien qu'à y penser. Et c'est pas ce que j'attendais du tout d'une série de super-héros. Je trouve que ça fonctionne très très bien et qu'on comprend quand Wanda se retrouve après la disparition du ex, quand elle se retrouve au milieu du morceau de terrain qu'a acheté Vision pour elle. Il y a une fermeture du cercle qui est éprouvante émotionnellement. C'est terrible et beau à la fois. Et pouf, ça fait son effet, quoi.
Ouais. Et du coup, bah, suite à ça, elle s'en va. Ouais. Et alors, c'est toujours étrange, hein, la temporalité, parce que du coup, on a l'impression qu'elle rejoint du coup de nouveau... Il y a le FBI, il y a Monica et tout. On a l'impression que ça fait quoi, 5 minutes qu'elle est... Et elle est partie alors qu'il y a eu un coucher de soleil et tout ça.
Mais c'était le coucher de soleil dans le ex, en fait. Et on voit bien que c'est pas le même, que c'est pas le même temps, enfin la même heure dans et à l'extérieur et à l'intérieur. Quand le ex disparaît, il fait nuit dans le ex. Et quand ça s'efface, tu vois, sur l'image, on voit qu'il fait jour à l'extérieur. Donc, bon, bref.
Voilà, donc elle s'en va. Elle a laissé, elle a transformé Agatha en Agnès.
Alors ça aussi, mais c'est d'une cruauté. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'autre moyen pour la contrôler, alors... Agnès, mais c'est incroyable. Et le jeu de Catherine Hahn, qui dit, qui sourit et qui a les larmes aux yeux parce qu'elle est vivante à l'intérieur, enfin, elle est consciente à l'intérieur, c'est incroyable ce qu'elle réussit à faire passer dans son regard, quoi. C'est, ça m'a vraiment
marqué. Qu'on la reverra, j'espère vraiment qu'on la reverra dans Doctor Strange.
Ah bah c'est à peu près sûr, oui. Dans Doctor Strange ou dans autre chose, mais on va la voir, c'est sûr. Oui.
Après, je trouve, voilà, j'ai pas super bien compris comment ça marche tout ça. C'est-à-dire que elle la laisse là dans une ville où elle a pas de maison, du coup, puisque si, enfin, on n'est plus
dans
l'Ouest.
Peut-être retourner vivre avec Ralph, peut-être.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Sword, le FBI, on la laisse là. Est-ce que les habitants de Westview ont envie de vivre à côté d'une sorcière?
Je me dis que personne ne va y toucher parce que c'est le genre de truc, tu sais pas ce que tu peux faire merder et t'as pas envie de réveiller Agatha Harkness, quoi. Tu te dis, on la laisse, elle est là, moi j'ai rien fait, je vais acheter mon pain.
Je serais tenté de déménager quand même.
Peut-être. Ouais. Et donc on a la conclusion Wanda qui s'envole et le Sword qui est en train de débriefer tout le monde dans la ville. Ça va très certainement être l'événement de Westview qui va être mystérieux et mémorable dans l'histoire de la Terre et des super-héros. Et puis on a les deux scènes post-génériques. D'une part, une Skrulle qui vient dire à Monica que c'est très certainement Nick Fury a besoin d'elle dans l'espace. Ça, c'est la première chose. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus, je crois que
au début, j'ai cru que c'était la scène post-générique, j'étais très déçu.
Ouais.
mais oui, ça, j'imagine que ça annonce probablement Captain Marvel. Enfin, un lien avec Captain Marvel, le prochain Captain Marvel, ou avec la série Secret Invasion, du coup, qui va être une des séries de l'année prochaine. Donc, du coup, pas grand chose à dire. Donc, maintenant, elle a ses pouvoirs, donc elle a le droit d'aller dans l'espace avec le curé.
Ouais, alors, clairement, très mal exploité, mais on parle de Nick Fury et tout ça. Il faut aussi mentionner qu'il y aura normalement les Eternals qui va arriver cette année, je crois. Et dans les Eternals, a priori, dans les comics, il y a un grand lien avec la nature de l'humanité et des mutants. Et donc, c'était juste pour reparler un tout petit peu de Evan Peters, il n'est pas impossible que si cette série était arrivée après les Eternals, l'histoire des mutants serait moins importante et les connexions avec le MCU seraient moins mind-blowing qu'avant, parce qu'on aura peut-être des explications sur certains trucs. Bref, peu importe.
Du coup, juste pour expliquer très rapidement, ce film va se dérouler des milliers d'années en arrière. Et on va parler d'êtres qui sont là justement pour manipuler l'évolution, essayer d'inventer les mutants, ce genre de choses là. C'est ce genre d'entité dont on parle. Donc ils peuvent très bien utiliser. Et moi c'est comme ça que je le voyais d'ailleurs, utiliser ce film là pour expliquer pourquoi les gens ont des super pouvoirs ou ce genre de choses là.
C'est ça.
C'est un des trucs que j'attends. C'est bizarre parce que c'est pas un truc qui rayonne beaucoup. C'est pas un nom de super héros. C'est pas Captain America, etc. Mais du coup, j'espère qu'ils vont en profiter pour refaire beaucoup de ce qu'on appelle le world building, c'est-à-dire de décrire un peu mieux leur univers et tout ça.
C'est un petit peu le Panthéon, un Panthéon, il y en a plein, mais de Marvel. Et ils sont pas très connus dans les comics non plus, les Eternals, on les connaît un peu, mais c'est un peu comme les Guardians of the Galaxy avant que le film n'arrive. C'est genre un groupe obscur de super-héros, une entité qu'on connaît un peu, mais bon, voilà. Mais ils sont effectivement à l'origine de tout ce qui est les déviants et les. Merde, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, bref. Peu importe. On en reparlera en temps et en heure. Donc, deuxième scène post-générique, Wanda dans une petite maison, peut-être dans Windegore. Non, c'est le mont Windegore, Windegore Mountain.
Ah, c'est bon.
D'où viennent les fleurs que cultivait Agnès, d'ailleurs. Et on pense que c'est ça, mais on la voit en train de se faire un café et sa projection astrale en train de feuilleter Darkhold, qui est le livre des damnés, et d'ailleurs que dont Agnès, enfin je l'appelle Agnès, Agatha disait à Wanda que il y a un gros chapitre sur elle dans le Darkhold et qu'elle n'est pas née, mais elle est fabriquée, la Scarlet Witch, la sorcière rouge, et elle le feuillette, elle l'a récupéré clairement, et elle le feuillette, elle le lit pour essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit et comprendre ses pouvoirs et ce qu'elle est. Une chose à noter, c'est que contrairement à Doctor Strange, qui clairement était occupé, hein, qui avait d'autres choses à faire que de venir voir ce qui se passait avec la sorcière rouge pendant la série, contrairement à lui qui se projette en projection astrale pendant qu'il dort, Wanda, elle, peut le faire pendant qu'elle est réveillée et manipuler ses deux consciences en même temps, en quelque sorte. Donc clairement, elle est beaucoup plus forte que le sorcier suprême, comme le disait Agatha.
C'est écrit dans le... Et bon, de toute façon, dans le livre, c'est écrit, la Scarlet Witch est plus fort que le sorcier suprême. D'ailleurs, je ne sais pas si Doctor Strange est un sorcier suprême dans le MCU.
Ah bah si, le sorcier... Enfin, peut-être qu'il ne l'a pas... Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit comme ça. Je crois qu'ils avaient évoqué le titre, son titre de sorcier suprême. Je ne sais pas. Bon.
En tout cas, il y a cette super séquence où elle lit le livre... en projection astrale et où elle entend ses enfants qui l'appellent.
Voilà, donc les enfants ne sont pas restés morts très longtemps, heureusement, moi ça ne me gêne pas. L'effet de la disparition, enfin de la scène où ils s'en vont reste forte. Certains ont fait remarquer qu'on ne les voit pas disparaître, mais bon, ça je ne pense pas que ça soit lié, c'est plutôt cette histoire d'âme de eux qui ont choisi Wanda pour être sa mère, pour être leur mère. Ils sont retournés là où ils étaient, ils l'appellent et oui, bon, clairement, il va y avoir un truc et elle va vouloir les récupérer, quoi. Et peut-être que ça sera lié à Mephisto, pour le coup, et au fait qu'ils étaient des fragments d'âme de Mephisto, comme dans les comics. Bon, voilà.
Oui, c'est pas perdu, ça. Hein. Je pense que... Ouais. S'il n'y a rien autour de Mephisto pendant Doctor Strange 2, je pense qu'on pourra se dire, bon, OK, il n'y a rien, tant qu'il n'y a pas de nouvelles, finalement, il n'y aura rien. Mais ce n'est pas impossible du tout. C'est vraiment un méchant typique de Doctor Strange. Ça pourrait être... c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu comme si ça allait être la grosse menace de la phase 4 ou 5 ou 6, ou je sais pas. Mais ça pourrait très bien être juste un méchant de Doctor Strange 2 comme l'avait été Dormammu dans Doctor Strange 1. Hein, Dormammu qui était aussi une entité extrêmement puissante qui aurait tout à fait pu être un méchant de phase complète. Voilà, ça peut être Mephisto peut apparaître juste en méchant one shot aussi pour un
très
film.
Possible.
Ce sera pas déconnant non plus.
Tout à fait. Donc voilà la post générique qui est quand même assez enthousiasmante, assez cool et puis intrigante. Je l'ai trouvé réussi quoi la deuxième post générique. Et je crois que c'est tout pour l'ensemble de WandaVision. On a vraiment conclu sur la série, je crois, pendant qu'on parlait de tous ces passages. Mais un petit mot pour terminer sur WandaVision.
Voilà, au global, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu en deçà des attentes que je pouvais avoir parce que j'avais vraiment de très fortes attentes sur le projet. Surtout suite à mes lectures de Vision de Tom King et des autres comics qui étaient un peu rattachés au projet. Mais ça reste une très très bonne série. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai hâte maintenant de passer à la suite.
Moi, j'ai été très agréablement surpris. Je ne savais pas à quoi m'attendre et je me disais un truc comme ça. Je ne savais pas du tout, quoi, parce qu'on connaissait le pitch, mais je ne pouvais pas imaginer qu'ils iraient aussi loin. Et je trouve que c'est extrêmement réussi, à tel point que ça m'inquiète presque un petit peu pour la suite, parce que si la suite, comme on le mentionnait, je crois, dans une de nos discussions, si la suite, c'est juste des séries d'action classiques, ça va paraître un peu fade à côté, parce que là, c'était tellement n'importe quoi, ça partait dans tous les sens et les spéculations étaient quand même hyper agréables à faire de semaine en semaine. Et surtout, le parcours émotionnel de Wanda et comment ils réussissent à rattacher les wagons d'un truc aussi abracadabrantesque qu'une sorcière qui crée une réalité alternative dans laquelle elle a une famille et qui est enfermée dans une zone de sortilège, mais qui est en même temps avec à côté un robot reconstruit par une méchante. Enfin bon, bref. Et pourtant, ça fonctionne très bien comme tout ce que fait le MCU. Donc moi, je ne suis pas du tout... c'est pas en dessous de mes attentes, c'est carrément au-dessus, même si... En fait, à l'épisode 4 et 5, mes attentes se sont complètement envolées et au final, c'est retombé un petit peu à un niveau un petit peu plus raisonnable. Mais quand même, oui, je suis d'accord avec toi, la série reste super, super bonne. Et moi, j'ai passé un excellent moment, je suis très content. J'espère que les autres, la suite, justement, pourra être différemment, mais au niveau. Et du coup, la suite, parlons-en un petit peu avant de conclure l'épisode. Falcon and the Winter Soldier qui commence ce vendredi déjà, ça y est, on enchaîne ce vendredi. Quelles sont tes attentes par rapport à cette série ?
Alors, ça aurait dû être la toute première série du MCU. Parmi tous les projets qu'on a, moi, c'était celle qui m'intéressait vraiment le moins. Parce que je suis pas très attaché à l'univers Captain America. L'univers militaire, enfin voilà, la partie action plus classique du MCU. Donc du coup, j'avais pour le coup zéro attente, mais j'ai vu un ou deux trailers là de la semaine dernière.
Moi, je les ai pas regardés la semaine dernière, donc me dis rien.
Voilà, bon, en tout cas, je sens qu'il y a un ton qui m'intrigue beaucoup dans la série. Du coup, j'ai un peu hâte. Alors, j'espère que ça sera traité comme j'ai le sentiment que ça le sera sur le poids de ce qu'est être, qu'est-ce que c'est qu'être Captain America sur les épaules du coup de ces deux personnages-là et de toute façon, ces deux personnages-là dans les films, ils ont des interactions que j'apprécie quand même pas mal. Je trouve qu'ils sont très drôles tous les deux quand ils sont ensemble. Donc voilà, j'étais passé de ça m'intéresse pas des masses à oui, pourquoi pas, allons-y. Et je suis très curieux de savoir quel format auront les épisodes. Je sais pas s'ils sont 20 minutes, si ça va être plus long. Ouais. Voilà, ça sera un peu la surprise. Je pense que je vais beaucoup moins m'impliquer dans les spéculations cette fois-ci.
Je sais pas s'il y en aura, hein. Ça me paraît.
On sait jamais. On sait jamais parce que moi, à cause de mon historique YouTube VandaVision, je me prends des recommandations de chaînes qui essayent de tirer un peu de tout ce qu'ils peuvent de la moindre image de trucs. Et j'ai l'impression qu'ils sont repartis pour des spéculations.
Ah, les chaînes YouTube, j'en suis sûr, oui, mais je sais pas si ça nous touchera nous, les gens normaux.
Non, probablement pas.
Moi, j'ai des... on débriefera de toute façon. Hein. Peut-être que, pour le coup, avec moins de spéculation, on ne fera pas des épisodes d'une heure, mais bien d'un quart d'heure, comme c'était prévu à la base. Mais, moi, il y a deux choses que ça m'évoque, cette série. D'une part, le fait que les films de Captain America, je trouve, sont les meilleurs du MCU. Les trois sont excellents et surtout au niveau film d'action, espionnage, que sont le 2 et le 3, réalisés par les frères Russo. Donc ça, il y a une ligne directrice qui est déjà installée et qui est difficile à suivre, je pense, ou peut-être qu'ils vont essayer de le faire et qu'ils y arriveront. Mais disons un poids qui est effectivement difficile. Et si on parle de poids, évidemment, ce que tu évoques est important. Moi, j'ai pas vu les derniers trailers, mais dans les comics, le passage de pas de bâton mais de bouclier entre Steve Rogers et Sam Wilson se fait avec beaucoup de difficultés parce que Sam Wilson, il a un costume d'oiseau super cool, mais il n'est pas un super soldat. Il est juste quelqu'un de normal. Et en plus, il n'a pas la droiture inflexible de Steve Rogers, il n'a pas une sorte d'idéalisme surhumain du Boy Scout Steve Rogers. Et en plus de ça, évidemment, je crois que ça a été écrit il y a une dizaine d'années, mais on avait déjà évidemment un contexte racial et d'intolérance particulier aux États-Unis. Et la série n'ignore pas ça, dans les comics en tout cas, il y a des hashtags « Not my captain » ou ce genre de choses. Et au-delà du poids d'être Captain America, d'être le symbole en général pour Sam Wilson, il y a aussi le fait que c'était quand même l'Aryen au sens ethnique Captain America, et Sam Wilson étant un noir, évidemment, aux États-Unis, il y a une certaine partie de la population qui exprime son mécontentement. Et comment gérer ça, c'est pas évident. Et comment est-ce que la série va gérer ça? Moi, j'espère qu'ils vont au moins... Disney, ils font toujours très, très lisse, très, très... enfin, évidemment, ils peuvent faire un petit peu de commentaire social, mais c'est pas leur spécialité, on va dire. Et je me demande s'ils vont au moins toucher à ce truc. Ils n'ont pas besoin de faire de Captain America... Pardon, de Falcon and Winter Soldier, une épopée politique, mais je serais déçu, par exemple, qu'il n'y ait pas au moins des hashtags qui soient évoqués et des mouvements sociaux, tu vois, qui montrent ce que ça donnerait dans, entre guillemets, la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas être évident à faire cohabiter avec les histoires d'espionnage et d'action qu'il y aura à côté. Donc, je ne sais pas si c'est ça à quoi tu pensais quand tu disais le poids de Captain America, mais...
Je pensais pas à ça, j'avais pas perçu ça moi dans
ah
les
oui
trailers.
Ah bah peut-être que ça sera pas dans la série alors.
Du coup, je m'attends pas à ça. Par contre, si c'est présent, je serais quand même agréablement surpris. Donc à voir, ouais. Je pense que tout est ouvert. On pourra parler dès la semaine prochaine.
Dès la semaine prochaine. Moi j'espère qu'il y aura au moins un hashtag Not My Captain. Tu vois, s'ils font pas au moins ça, s'ils introduisent pas cet aspect de le transfert de bouclier dans la série, je serais un petit peu déçu quand même. Mais on verra. Dans une semaine, on sera là présent pour vous faire le débrief du premier ou peut-être des deux premiers. Je sais pas s'ils vont en diffuser deux d'un coup. Falcon and Winter Soldier. Merci Johan d'avoir été présent avec moi. Tu es déjà d'attaque pour le prochain épisode. On se retrouve lundi. D'ici là, où est-ce que les gens peuvent te retrouver?
On peut me retrouver sur Twitter, @JohanT_.
Magnifique. @JohanT_ sera dans les notes de l'émission. Moi, je suis Note Patrick et vous aurez dans les notes de l'émission le lien vers mon compte Twitter. Et sur notepatrick.com, vous avez le lien vers tout ce que je fais. Que ce soit des podcasts ou du YouTube ou de la newsletter, etc. etc. Donc, vous pouvez aller voir ça sur notepatrick.com et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Super Laser Punch qui fera moins d'une heure, je pense. Ciao à tous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.